Chapitre 44. Eh bien oui, tu partiras, dit-elle. Je ne veux pas te faire manquer à ta parole. Tu as promis de partir, mais tu n'as pas promis de ne pas revenir, et tu reviendras. Que m'importe maintenant que tu partes, puisque tu es toujours mon Roger, puisque tu m'aimes toujours, je sais bien que tu me reviendras. Oh, le grand enfant, le naïf, qui s'imaginait pouvoir quitter sa Valère. Seulement, ne pars pas encore, ne pars pas si vite, tu as le temps.
Il voulut dire que, bien loin d'avoir le temps, l'heure au contraire était arrivée. Mais elle ne le laissa pas parler.
« Tu sais bien que ces vapeurs partent toujours longtemps après l'heure fixée. »
De la main, il lui montra par la fenêtre le pavillon blanc avec croix noire, hissé tout au haut du mât des signaux de la jetée, sans flamme noire en forme de guidon au-dessus.
« Eh bien » demanda-t-elle en regardant ce signal.
« Eh bien, cela veut dire qu'il est en pleine mer. »«
Tu sais mieux que moi qu'au Havre, la mer reste pleine longtemps. Je te dis que le Canada n'est pas prêt à partir. Avant de venir ici, j'ai été au quai du vapeur te cherchant. On m'a dit qu'il ne partirait qu'à 9 heures et 8 heures ne sont pas encore sonnées. Il ne faut pas 1 heure pour aller en voiture d'ici au quai des Transatlantiques. » Laisse-moi profiter des dernières minutes qui nous restent. Laisse-moi te regarder, laisse-moi t'embrasser, laisse-moi te prendre pour t'emporter, te garder jusqu'au retour. »
Le temps s'écoula sans que Roger eût conscience des minutes qui passaient.
« Oui, disait-elle, tu vas partir, je vais te conduire, je ne te quitterai que sur la planche. Encore un baiser, un seul !»
Si Roger avait regardé du côté de la jetée, il aurait vu le pavillon noir et blanc de la pleine mer amené et remplacé au haut du mât par un pavillon rouge qui disait aux navires venant du large que l'entrée du port leur était interdite pour laisser sortir un transatlantique, mais ses yeux étaient plongés dans ceux de sa maîtresse et il ne voyait rien, il n'entendait rien.
« Oui, tu vas partir, disait-elle. Encore 1 minute !»
Un coup de canon lui coupa la parole. Vivement, Roger s'arracha au bras qui l'étreignait et courut à la fenêtre. Sortant de la jetée, il aperçut un grand navire avec 2 grosses cheminées rouges, le Canada qui, au moment de faire route, saluait son port. Le câble qui l'attachait à son remorqueur fut largué, la vapeur couronna ses cheminées, il était parti. Madame d'Arverne s'était avancée doucement, marchant sur le tapis sans faire de bruit. Elle jeta ses bras autour du cou de son amant.
« Eh bien oui, dit-elle, je t'ai retenu. Mais ne croyais-tu pas plutôt que je te laisserais partir quand j'ai eu tant de mal à te retrouver? C'est à Bernard que je dois d'avoir pu suivre tes traces. S'il ne m'avait pas parlé de la visite de Monsieur d'Arverne, mon esprit n'aurait pas été en éveil. » Mais quand j'ai connu cette visite, j'ai pu tant bien que mal reconstituer ce qui s'était passé et deviner ce qui allait arriver. Ton concierge, en apprenant à ma femme de chambre que Bernard avait fait conduire tes bagages à la gare du Havre, a fait le reste. Tu étais au Havre. J'y suis venu. Nous y sommes, restons-y. Ne me regarde donc pas avec ces yeux effarés et pense plutôt à commander notre déjeuner. Je meurs de faim comme une femme qui a passé sa nuit en chemin de fer et qui n'a guère dormi, son cœur était trop serré par l'angoisse. Maintenant qu'il n'y a plus de navires en partance pour New York, je respire et j'ai faim. »
Lorsqu'ils descendirent pour déjeuner au rez-de-chaussée, il aperçut Bernard dans le vestibule, se tenant là en homme qui attend. Il n'était donc point parti sur le Canada et il avait eu l'intelligence de débarquer à temps. Il ne lui dit rien, mais, le déjeuner commandé, il demanda à Madame d'Arverne la permission de la laisser seule un instant et il revint dans le vestibule. Il fit un signe à Bernard qui accourut. « Je suis bien aise que vous ne vous soyez pas embarqué, » dit Roger. Bernard prit son air discret. « J'étais là dans ce vestibule, » dit-il, « quand j'ai vu Madame descendre de voiture. Elle a demandé l'appartement de Monsieur le Duc. » Alors,
J'ai bien pensé que monsieur le duc ne partirait pas et j'ai été tout de suite à bord du Canada pour faire débarquer les bagages que j'ai fait placer sous la tente pour le cas où monsieur le duc se déciderait à partir quand même. Monsieur le duc n'ayant pas paru, ils sont restés sous la tente et moi je suis revenu ici. Faut-il les faire rapporter ? Non, qu'ils restent où ils sont. Pour vous, parcourez le port et informez-vous des vapeurs qui sont en partance à la marée de ce soir ou à celle de demain matin. Vous me le direz en particulier.
Bernard ouvrit de grands yeux, mais il ne se permit pas d'observation, quelque envie qu'il en eût. Il était fâché de ne pas aller à New York parce qu'il avait toujours désiré visiter l'Amérique. Mais c'était une consolation de penser que le lendemain, il partirait peut-être pour un autre pays inconnu. Il aimait l'imprévu. Pendant toute la journée, Madame d'Arverne se montra charmante. Pas un mot de reproche, pas une allusion. Rien que des caresses et des paroles passionnées. C'est à croire qu'ils étaient venus de Paris ensemble. Pour Roger, il s'efforçait de cacher sa préoccupation, et si, de temps en temps, il se trahissait par un silence ou par des regards inquiets, elle faisait comme si elle ne voyait rien, et loin de se plaindre, elle se montrait au contraire plus gaie. D'ailleurs, elle ne s'inquiétait pas de cette préoccupation qu'elle trouvait toute naturelle. Il devait être gêné, embarrassé. Mais, après le premier moment passé, cette gêne s'effacerait, et alors on pourrait traiter la question d'avenir. Elle avait le présent, c'était déjà beaucoup, c'était tout. Elle avait reconquis sa puissance, elle saurait la garder et la défendre. Après déjeuner, ils étaient montés en voiture et s'étaient fait conduire au château d'Orchères, où ils avaient passé la journée à se promener et à s'asseoir dans les bois qui couvrent les collines, du haut desquelles l'œil embrasse dans son ensemble toute la baie de la Seine que ferment les coteaux verts d'Honfleur et de Villerville.
« Cette brise de la mer me rappelle Portrieux, » disait-elle parfois en se serrant contre lui. « Et toi, penses-tu à Portrieux ? Ah, comme je t'aimais déjà ! Et pourtant, je t'aime mille fois plus encore aujourd'hui !»
Lorsqu'ils entrèrent pour dîner, Roger trouva quelques courts instants pour entretenir Bernard. « Ce soir partiront à la marée, » dit celui-ci en tirant un carnet. Mais son maître lui coupa la parole. « Ne nous occupons pas de ceux de ce soir. Quels sont ceux de demain ?»« Bon, se dit Bernard, si nous reculons toujours ainsi, nous ne partirons jamais. » Mais cette observation, il la fit tout bas. Haut, il lut « Pour Saint-Pétersbourg, le Stentor. Pour Lisbonne, la Caravelle. Pour Liverpool, le Stromboli. Pour Rio de Janeiro et la Plata, le Rosario. » Roger interrompit cette énumération qui menaçait d'être longue. Rio Janeiro était plus loin encore que New York.
« À quelle heure part le Rosario ? » demanda-t-il.
« À 9 heures, il quittera les docks. »«
Bien, faites porter les bagages à bord du Rosario et retenez-moi une cabine. Vous m'attendrez sur le vapeur même. »
Après le dîner, Madame d'Arverne voulut aller au théâtre et bien qu'elle eût passé la nuit précédente en wagon, elle eut la fantaisie de rester jusqu'à la fin. Il était minuit lorsqu'ils rentrèrent à l'hôtel et plus d'une heure du matin lorsque, après avoir soupé, ils montèrent à leur appartement. Ce fut là que, pour la première fois, elle parla de fatigue. Bien que fatigué aussi, Roger ne s'endormit pas, agité, enfiévré par la résolution qu'il allait accomplir. Si elle avait été dure à prendre à Paris, loin d'elle, combien terrible était-elle à exécuter, maintenant qu'il l'avait revue, qu'elle était là, près de lui ? N'était-ce pas misérable de l'abandonner ainsi ? Ne devrait-il pas lui dire hautement « Je pars » ? Oui, sans doute, il devrait le lui dire. Cela seul était digne et honnête. Mais s'il le lui disait, partirait-il ? L'expérience de la veille était là pour lui montrer combien sa chair était faible. Pour partir, il fallait qu'il se sauvât, ou bien il ne partirait jamais. Le jour le surprit avant qu'il eût fermé les yeux. Puis, peu à peu, le bruit de la mer qu'on entendait faiblement grandit, annonçant que la marée montait. À 7 heures, il se leva avec précaution, et, avec toutes sortes de précautions aussi, il s'habilla. Mais elle dormait d'un profond sommeil, bercée par la vague qui l'empêchait d'entendre d'autres bruits. Habillé, il resta debout longtemps devant elle, la regardant et ressassant pour la centième fois tous ses raisonnements de la nuit, mais avec une émotion plus poignante encore, puisque le moment de la séparation approchait, puisqu'il était arrivé. Elle fit un mouvement. Il crut qu'elle allait se réveiller, il se sauva. Cependant, elle ne se réveilla point, et ce fut à 8 heures seulement qu'elle ouvrit les yeux. N'apercevant point Roger, elle l'appela. N'obtenant pas de réponse, elle ne s'en inquiéta pas autrement, tant elle était certaine de l'avoir reconquis. « Il est sur la jetée !» se dit-elle, se rappelant qu'il lui avait raconté que, depuis qu'il était au Havre, tout son temps s'était passé, pendant que la mer était haute, à suivre sur la jetée le mouvement d'entrée et de sortie des navires. Et elle s'habilla lentement pour aller le rejoindre. Comme elle arrivait sur la jetée, elle vit un grand vapeur qui s'avançait lentement dans l'avant-port pour sortir. « Le Rosario, » dit-on autour d'elle, « c'est son premier voyage à La Plata. » Elle s'approcha du parapet pour voir le Rosario sortir. Il s'avançait doucement, presque insensiblement, dominant de sa masse majestueuse le remorqueur qui le conduisait pour l'aider à gouverner. Soulevé par la marée dans son plein, il était plus élevé que la jetée qu'il rasait. Tandis que l'équipage s'occupait à la manœuvre, les passagers groupés, çà et là, se tenaient tournés du côté de la ville pour dire adieu à la terre. Il y en avait qui agitaient des mouchoirs. Tout à coup, dans un de ses passagers appuyé à un hauban, Madame d'Arverne crut reconnaître Roger. Elle passa sa main sur ses yeux. Mais elle ne se trompait pas, c'était lui qui semblait regarder les fenêtres de Frascati. « Roger !» Mais ce cri, il ne l'entendit point. On venait de mettre en route et le navire s'éloignait rapidement, le cap sur la haute mer.